c'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Bien, nous parlons aujourd'hui du programme Yali pour les jeunes africains. Vous savez, certains jeunes congolais ont été sélectionnés pour participer aux États-Unis au programme d'échange américain destiné aux jeunes leaders africains. Et le programme est dénommé Yali, Young African Leadership, voilà, programme. Alors, des retours au pays, il nous parle aujourd'hui de la nature et des objectifs de ce programme, ainsi que de leur expérience personnelle et des perspectives d'avenir qu'offre cette initiative pour eux-mêmes, ainsi que pour leur communauté. Nous avons dans ce studio Mariamou Aganze, elle réside à Bukavu et elle est chargée du monitoring et de l'évaluation d'un projet axé sur les maladies tropicales supervisé par World Vision International. Et elle a participé au programme des civismes communautaires des Yali et par la suite a été sélectionnée pour effectuer un stage et entrer à ce domaine. Et nous avons également Orphée Tamba, qui est médecin de son état, habitant à Kinshasa. Il travaille actuellement au sein du bureau de monitoring et d'évaluation de la Elizabeth Glaser Pediatrics, voilà, AIDS Foundation. Et il a participé au programme des gestion publique des Yali. Alors, Mariamou, on va commencer avec vous. Dites-nous comment est-ce que cette histoire a commencé pour vous?
Cette histoire a commencé pour moi en ligne. Il y avait un ami qui m'avait parlé de ces programmes de l'année passée en 2014. Il m'avait dit si j'étais intéressée. Mais malheureusement, quand j'étais partie en ligne pour voir de quoi il s'agissait, la date limite était déjà passée, était déjà écoulée. Alors je me suis dit, ok, l'année prochaine, je veux essayer d'être à temps et de voir comment ça se passe. J'ai noté ça quelque part. Et puis, en septembre 2014, l'application encore a été relancée en ligne. Je suis partie, j'ai regardé le critère de sélection. Je me suis dit, ok, ça va, j'ai rempli quand même les critères.
Quels sont ces critères?
Oui, parce qu'il y a trois options à faire aux États-Unis. Il y a le public management, il y a le civic leadership, il y a aussi l'entrepreneuriat et le business. Ça dépend maintenant de ton profil et de là où tu es actif. Et je me suis rendu compte que j'étais plus active dans le civic leadership parce que je travaille avec une organisation locale à Goma, Ouema, qui est chargée de s'occuper des jeunes filles vulnérables et de les ramener dans des écoles qui ont des problèmes financiers. Mmh. Alors je me suis dit, notre organisation remplit, parce que d'abord il faut d'abord être actif dans sa communauté. Si tu veux participer dans le track de civic leadership, il faut montrer que tu es actif dans ta communauté, que tu fais quelque chose qui est rentable à la communauté. Et je me suis dit, ok, notre organisation Ouema remplit les critères. Nous travaillons pour la communauté comme des bénévoles. Nous aidons ces jeunes filles à rentrer à l'école, à trouver le paiement de frais scolaires.
Les filles mères?
Non, ce sont des jeunes enfants de l'école primaire. Okay. Nous sommes surtout basés sur les jeunes filles de l'école primaire.
Mmh. Et dont les parents n'ont pas moyen, de les envoyer à l'école.
C'est de les envoyer à l'école. Et aussi, il y a un autre critère important, c'est la connaissance de l'anglais. Oui, et je suis bilingue, je parle l'anglais et le français, ce qui a été vraiment un atout capital. Mmh. Parce que tout se passe en anglais. L'application online est en anglais, l'interview se passe en anglais. Et aux États-Unis, tout le programme est en anglais. Donc, il faut vraiment avoir une base solide en anglais. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'avais toutes ces capacités. Je me suis lancée, j'ai postulé. Dieu merci, j'avais été sélectionnée.
Ah bien, Tamba, vous êtes médecin de Kinshasa, vous habitez Kinshasa. Parlez-nous, comment est-ce que vous avez été sélectionné pour participer au programme Yali?
Merci beaucoup, je vous dis encore pour l'invitation. Il faut dire que j'ai postulé la première fois, mais ça n'avait pas marché en 2013. Et je me suis pas relâché, j'ai postulé encore en 2014 et ça a marché. Et moi, c'est ma sœur, ma grande sœur qui m'a parlé du programme, mais j'avais négligé un peu. Et c'est une autre personne qui m'a vu œuvrer dans les milliers de jeunes, qui dit que je pouvais participer au programme et qui m'a beaucoup encouragé à postuler. Mmh. Du coup, j'ai postulé la première fois, ça n'a pas marché comme je l'ai dit, mais la seconde fois, j'ai postulé et j'ai été retenu. Et donc c'est comme ça que j'ai
Et quels sont les critères, qu'est-ce qui a concouru en votre faveur?
Pour moi par exemple, pour renchérir sur ce que Mariamou a dit tantôt, moi j'ai pris le track de public management parce que je travaille dans une organisation qui travaille étroitement avec le ministère de la santé de notre pays, je suis dans le suivi et évaluation et cette position me permet d'interagir vraiment avec le gouvernement au travers les zones de santé et puis la direction professionnelle de la santé aussi. Et par rapport aussi à mes aspirations personnelles, j'ai l'intention avec la grâce de Dieu de travailler dans des institutions, des organisations internationales comme maintenant et aussi dans au niveau du gouvernement de notre pays. J'ai choisi le public management, le track de public management et c'est comme ça que j'ai été sélectionné. Un des critères aussi c'est qu'il faut avoir entre 25 et 35 ans.
Et 35 ans.
Il y a un critère de l'âge aussi que je voulais ajouter.
Ok. Bien. Alors, Mariamou, vous avez été sélectionnée et après combien de temps vous êtes envolée pour aller aux États-Unis?
J'avais postulé, c'était en septembre. Si je me rappelle très bien, c'était en septembre. On a eu des résultats de semi-finalistes en mars, vers la fin du mois de mars 2015 de cette année. On nous a sélectionnés, on a eu un email qui on a été sélectionné maintenant pour passer à l'étape suivante qui a été l'interview maintenant face à face avec les employés de l'ambassade des États-Unis. Il y a une équipe qui était descendue sur terrain à Goma, à Bukavu et dans différentes autres villes, à Lubumbashi aussi. Nous, on a fait l'interview à Goma, ils sont venus. Et puis, on nous a questionné. Il y a un tête-à-tête où on nous a donné un projet à discuter, à défendre en anglais pour voir comment est-ce que vous pouvez défendre le projet, pour votre capacité en anglais à défendre le projet aux États-Unis. Parce que là-bas, c'est surtout dans les civic leadership, c'est surtout sur des projets, des gestions de projets, des ONG, des organisations locales et nationales. Et puis après, il y a eu maintenant des questions face à face, maintenant entre toi et l'intervieweur, où on vous pose des questions sur votre avenir, c'est ce que vous faites, comment est-ce que vous voyez dans l'avenir.
Mais quels sont les objectifs de ce programme, Yali?
L'objectif principal du programme EALI, c'est de renforcer le leadership capacity de jeunes africains. Parce que le président Obama, il a voulu laisser un héritage aux Africains. Alors, il a vu que ça serait mieux pour lui d'envoyer de jeunes africains aux États-Unis pour qu'ils puissent de ressources des Américains et revenir maintenant au pays, comme il est dit, to give back to the community. De revenir et de donner ce que vous avez appris aux États-Unis pour le développement de nos communautés, de nos pays et du continent africain.
Alors, lorsque vous êtes arrivé là-bas, comment est-ce que ça s'est déroulé? Qu'est-ce que vous avez appris exactement?
Moi, par exemple, j'étais à New Jersey. Je ne sais pas comment ils mettent les gens, ils placent de jeunes dans des universités, mais on a été 500 jeunes africains et 25 étudiants par université. Il y a 20 universités qui ont été sélectionnées cette année pour accueillir 25 étudiants par université. Je me suis retrouvée la seule congolaise dans mon université. Et puis, on vous apprend maintenant, il y a différents cours, c'est à l'université, c'est vous partez à l'école comme si vous alliez dans une université normale, il y a un horaire de cours. Nous, on a été focalisés sur le leadership et la gestion de projets surtout. Comment gérer des projets, comment commencer une start-up d'une organisation, soit non gouvernementale, du début à la fin, et avoir des résultats qui ont un impact positif sur la communauté.
D'accord. Ouais. Parfait. De votre côté, comment est-ce que ça s'est passé aux États-Unis?
Oui, moi, après avoir été sélectionné par le processus dont Mariamou a parlé, j'étais basé à Howard University, à Washington DC, la capitale même des États-Unis, et il s'est fait que nous avons participé à un programme, comme je l'avais dit, de public management. Et c'est la même configuration. Vous avez des semaines thématiques. Vous avez des communications en tant que leader. Vous avez des semaines qui touchent autour de l'organisation de données, comment utiliser des données. On a des semaines comme ça. Et l'avant-midi, on avait des cours chez nous. On avait des cours et l'après-midi, on avait des site visits. Donc, on a, par exemple, lorsque vous parlez de la gestion des données, comment utiliser l'information que vous collectez, comment bien communiquer en tant que leader, comment utiliser les réseaux sociaux pour communiquer en tant que leader. On a visité des institutions qui travaillent dans ce domaine-là. On a visité Yahoo, on a visité Oracle dans la gestion des données, on a visité d'autres institutions encore qui matchaient vraiment avec le programme tel qu'il était conçu avec les semaines thématiques.
Voilà. Et vous étiez avec d'autres jeunes africains venus d'autres pays africains.
Oui. L'université dans laquelle j'étais, je pense qu'il y avait autour de 14 nationalités, autres que la RDC, mais la RDC était doublement représentée. J'étais là et il y avait un autre ami aussi, Jean-Félix, qui a participé aussi au programme à Howard University.
Bien, alors Mariamon, dites-nous qu'est-ce que vous avez appris lors de ce programme et qu'est-ce que vous comptez faire pour votre communauté de Goma où vous résidez.
Nous avons appris beaucoup de choses, particulièrement moi. Ce qui m'a beaucoup épaté aux États-Unis, c'est leur... Il y a eu beaucoup à apprendre, mais j'ai retenu quelque chose de très capital chez les Américains. C'était leur esprit de volontariat. En fait, les États-Unis, surtout à New Jersey, là où on résidait, la communauté a été développée grâce aux personnes qui se sont portées volontaires pour le développement de leur communauté. Sans être payées, sans rien du tout en retour, ils se réunissent en groupe pour défier de problèmes communautaires dont ils font face. Par exemple, l'insécurité, la salubrité, beaucoup de choses. Des écoles, la construction des écoles, la construction, la propriété de leur communauté. Ce qui n'est pas vraiment notre effort. Par exemple, à Goma, où je suis basée, à Bukavu, d'où je viens.
Oui.
Cette attitude n'est pas en nous.
Quand quelqu'un... Là-bas, il faut de l'argent, hein. Donc, il n'y a pas de volontariat. Vous venez.
Il y a des gens qui ont l'esprit des volontariats. Je n'en disconviens pas. Mais la plupart de personnes, quand tu lui demandes de rendre service, lui, il te demande, c'est quoi ma part dans tout ça, tu vois? Parce que, en fait, la pauvreté est ici chez nous et tout le monde pense à sa famille, à son ventre, qu'est-ce qu'il va manger après tout ça, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, cet esprit est là et c'est favorisé aussi par leur gouvernement parce qu'il y a des budgets qui sont alloués sur le volontariat. Même si les gens ne seront pas payés, mais quand même, ils auront besoin de matériel, par exemple, pour utiliser dans différents travaux qu'ils vont effectuer. Et c'est là... Il recourt maintenant au gouvernement pour, et de nous, on veut faire ça en tant que communauté, mais on n'a pas ça et ça. On n'a pas besoin de salaire, on n'a pas besoin de rémunération, mais on a besoin de ça pour effectuer nos travaux. Et facilement, il y a cette flexibilité et cette collaboration entre la communauté et les gouvernements pour que les gens réussissent leurs travaux communautaires en tant que bénévoles.
Et quand on parle de civisme communautaire, à quoi on fait allusion exactement?
Le civisme communautaire, on fait surtout allusion à de challenges, de défis qu'il y a dans leur communauté d'une manière qui affecte la population directement d'une manière sociale. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être peut-être, comme je l'ai dit, peut-être une communauté où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a de maladies qui se perpétuent peut-être à cause de la saleté et autres. La communauté s'est réunie ou un groupe de personnes, ça peut pas être toute la communauté. Il y a une personne qui peut avoir une idée de finir un problème quelconque.
Oui.
Il engage quelques autres personnes. Il s'est dit, nous, on a ce problème, par exemple, d'eau. Par exemple, à Goma, où on a un problème d'eau. Il y a des gens qui se réunissent pour le bien de la communauté. Ils se battent pour que ce problème soit résolu pour le bien de la communauté.
Oui, c'est un voilà. Système. Orphée, de votre côté, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous comptez apporter à votre communauté?
Merci beaucoup, Jody, pour la question. J'ai appris à deux niveaux. J'ai appris au niveau des jeunes, des autres jeunes africains. J'ai appris, deux, qu'il est vraiment possible de pouvoir croire en l'avenir de l'Afrique. J'ai appris, deux, aussi, qu'il y avait d'autres jeunes comme moi qui travaillaient pour le bien de leur communauté. Et par rapport au deuxième niveau, à partir duquel j'ai appris aussi au niveau du peuple américain. La première chose que j'ai apprise, c'est que les États-Unis d'Amérique ne sont pas parfaits. Mais ils travaillent pour rendre les choses meilleures. Les meilleures choses que j'ai apprises quand j'étais là-bas, c'est la redevabilité. Les gens sont tenus responsables de ce qu'ils sont appelés à faire ou de ce qu'ils sont...
Ils rendent compte.
Ouais. Donc, s'il y a un arbre qui est tombé sur la route, on sait à qui on doit poser la question pour savoir comment on n'a pas pu éviter ce dégât. S'il y a une personne qui a été tamponnée, donc on sait à qui... Et les gens rendent compte. Celui qui a reçu l'argent, il rend compte de ce qu'il a fait avec cet argent. Et tout, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est très, très bon et c'est très exemplaire. Il y a l'aspect de la transparence dans les processus de gestion. Les choses sont vraiment transparentes dans la manière de pouvoir passer les offres, c'est vraiment très transparent, ils sont très stricts par rapport à cela. Et à l'aspect de l'intégrité aussi. La loi est, même si la personne n'est pas, veut pas être intègre, mais la loi travaille à ce que les choses se passent avec un certain niveau d'intégrité. C'est très, très important. Une des choses très importantes aussi que j'ai retenues, c'est l'état d'esprit américain. Les Américains ont notre état d'esprit. Ils sont très positifs. Ils sont courage. Ils motivent. Ils ont des rêves qui sont fous. Il y a quelqu'un qui me disait, si ton rêve n'est pas assez fou au point de faire de faire que les autres se moquent de toi, ton rêve ne vaut pas être, n'est pas digne d'être appelé un rêve. Donc ils sont très positifs, ils se motivent. Mmh. Et ce que je voudrais apporter à ma communauté, principalement maintenant, c'est donner aux jeunes étudiants, mais aux jeunes élèves beaucoup plus, la possibilité de pouvoir devenir éligible aux opportunités d'études dans les universités internationales. Notre pays, comme vous le savez,
c'est... Et là vous étiez à New Jersey, c'est ça?
Moi, c'était à Washington, à Howard University.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes congolais? Sûrement, il y a des Africains qui sont là-bas, mais y a-t-il beaucoup de jeunes Congolais?
Malheureusement, on n'est pas arrivé à la période où il y avait les cours. Donc, il y avait d'autres jeunes qui étaient là, mais c'était pas représentatif des étudiants de Howard University. Mais Howard University, c'est parmi les universités qui sont cosmopolites. Il y a près de 108 nationalités qui sont représentées dans cette université. J'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer deux Congolais qui étaient des étudiants là-bas, mais qui étaient pas basé à l'université parce que c'était pas la période des cours, c'était la période des vacances, comme vous le savez. C'est parti de ce constat, un peu en général, en parlant avec ceux de la diaspora qui étaient aux États-Unis, voir un peu la communauté qu'il y avait là-bas. C'est parti de ce constat que j'ai voulu apporter aux jeunes congolais l'opportunité de pouvoir être éligibles à des opportunités d'études à l'étranger. Comme je l'ai dit, notre pays, c'est un pays francophone, mais la majeure partie des opportunités d'études, des bourses qui existent, se trouvent en anglais. Donc, il faut préparer les jeunes. Attends, j'ai compris que plus tôt le jeune est préparé, ce qu'il doit avoir comme critère à remplir pour être éligible à une bourse, mieux il est éligible et il a la chance de pouvoir obtenir cette bourse. C'est le projet que j'apporte pour ma communauté.
Quelle est l'importance du programme Yali pour les jeunes Africains et comment les jeunes Congolais peuvent aussi participer à ce programme? Nous recevons aujourd'hui deux invités, Orphée Tamba, médecin de Kinshasa, et Mariamou Agandé de Bukavu, qui ont participé récemment au programme Yali. Questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. N'attendez pas les dernières minutes, appelez déjà au 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Appelez pour participer à cette émission de la vie au quotidien au 081-890-63-94. Alors, Mariamou, ce programme s'appelle, on parle aussi des Mandela Washington Fellowship pour les jeunes leaders africains. Et pourquoi on parle des Mandela? Qu'est-ce que ce Mandela vient faire dans ce programme?
L'année passée, le programme n'était pas appelé Mandela Washington Fellowship. C'était juste le programme pour les jeunes leaders africains. Ce n'est qu'au sommet présidentiel, quand Obama a rencontré, parce qu'à la fin du programme, il y a 3 jours du sommet où le président Obama se donne la peine de venir voir le jeune africain pour au moins 2 heures où il discute avec eux. Et dans la salle, lui-même, il a proclamé que l'année prochaine, le programme sera baptisé Mandela Washington Fellowship. C'est juste en mémoire du leader africain que tout le monde connaît, Mandela de l'Afrique du Sud. Et c'était comme ça, il l'a dit publiquement, que désormais, l'année prochaine, le programme sera baptisé Mandela Washington Fellowship. Et c'est comme ça, le nom de Mandela est venu dans le programme.
Voilà. Oui. Alors, maintenant que vous êtes rentré au pays, quels sont les projets que vous comptez initier pour développer votre communauté de Goma?
Bon, jusque là, je ne saurais pas vraiment dire avec précision tous les projets que le jeune leader, par exemple, du Congo qui ont été sélectionnés prévoit. Parce qu'on est maintenant en phase des restitutions. Nous sommes venus à Kinshasa. On était 14 et nous tous, on est venus à Kinshasa cette semaine pour une phase de restitution. Quand on est parti aux États-Unis, on avait des visions. Chacun est parti avec sa vision, la façon de voir les choses. Mais au retour, c'est que le constat qui a été fait que certaines visions ont été abandonnées. Il y a des visions qui ont été plus façonnées. D'autres visions qui ont été plus éclaircies. Alors, on est tous ensemble en train de se réunir et de voir qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va le faire. Parce que pour le moment, nous avons plusieurs projets. Il y a beaucoup des idées qui bouillonnent. Mais maintenant, on veut se mettre ensemble pour se focaliser, savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment est-ce qu'on va le faire.
Parlez-nous, par exemple, d'une idée ou d'un projet parmi tant d'autres que vous comptez réaliser à Goma ou Nord Kivu.
Par exemple, à Goma, au Nord Kivu, avec un autre collègue qui est parmi aussi le fellows de cette année, il y a un programme de volontariat qu'on voulait initier dans Youth Volunteerism Program qu'on voulait initier dans le, surtout pour la jeunesse congolaise, de les jeunes étudiants qui finissent l'université et qui font 3 à 5 ans et plus dans le chômage, et puis ils te disent qu'on n'a quasiment rien à faire, on ne trouve pas du travail. Alors que quand tu regardes autour de toi à Goma, au Kivu, tu vois qu'il y a à faire. Justement, il y a beaucoup à faire. Mais les jeunes ne savent pas. Tout le monde veut postuler dans des ONG, dans de travaux publics pour avoir le travail. C'est, comme je l'ai dit, cet esprit de volontariat n'est pas là. Alors, on voulait initier ça avec un programme de jeunes pour qu'on soit volontaires et mobiliser aussi les autorités locales pour nous aider à avancer, parce que nous-mêmes, on ne saura pas faire ça. On voulait voir des challenges que nous avons dans notre communauté et proposer les autorités aussi à nous aider à réaliser ça pour que la ville se développe.
D'accord. Nous avons un invité en ligne, un auditeur en ligne, Dr Richard Mukalenga, qui vous écoute de Kinshasa. Dr Richard, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à vos deux invités, et surtout à mon confrère. Qui est dans le studio.
Bonjour.
Oui, moi je suis très très heureux de remarquer que les Congolais sont allés se faire ouvrir les yeux aux États-Unis. Et dans leur pays, ils n'ont pas les yeux ouverts. Pourquoi je dis ça? Je ne comprends pas comment un médecin peut quitter sa maison, aller dans un hôpital ou dans un programme, comme mon confrère, faire l'évaluation et le suivi, en ignorant que 42% de la population souffre de la malnutrition chronique, et il n'y a rien là-dessus, ça ne lui dit rien. C'est ça le problème. Nous sommes allés dans des grandes réunions, pratiquement, excusez-moi, je veux le dire, nous chamailler là-dessus. C'est ainsi que j'ai lancé la communauté des médecins unis pour le développement du Congo. Nous devons attaquer le problème à la racine. Mais malheureusement pour moi, je suis souvent insulté. Mais je suis content que les Congolais sont partis aux États-Unis pour avoir les yeux ouverts et faire des programmes, des projets pour leur pays. Et dans leur pays, ils ne voient rien. Donc, il y a un, le système d'enseignement est aveuglant. Deux, la conscience nationale par rapport au problème du pays n'est pas là. Et je les encourage de capitaliser tout ce qu'ils ont appris là-bas, ici, dans le pays. Donc, nous sommes dans l'obscurantisme grave. Je les encourage. Merci beaucoup.
D'accord. Docteur Richard, vous avez parlé d'une organisation, vous voulez qu'il puisse vous joindre, devenir membre?
Oui, mon confrère qui est là, la communauté des médecins unis pour le développement du Congo. Le professeur Bieleli de la faculté de médecine au Clé Université est membre. Le professeur le chirurgie thoracique, je peux prononcer mal son nom, Mouchegera, est là-dedans, ainsi que d'autres médecins. Sont déjà membres.
D'accord, merci. Merci, docteur Richard. Innocent Wangu, vous êtes à Bounia, en Ituri. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
On vous écoute, Innocent.
Oui, j'aimerais poser une question à votre médecin, à l'auditeur de Kinshasa, qui a dit qu'il va aider les jeunes Congolais à accéder à des opportunités, des bourses à l'étranger. J'aimerais savoir concrètement, que fera-t-il pour que les jeunes aussi accèdent à ces bourses à l'étranger? Et si possible aussi avoir ses coordonnées.
D'accord. Alors, monsieur Orfeu, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voulais remercier les deux auditeurs pour leurs questions. Docteur Richard, c'est plus un commentaire. Je suis très ouvert à pouvoir participer au programme des médecins unis pour le développement du Congo. Le prof Bieleli et le prof Mouchegera, ce sont mes maîtres, ils m'ont donné cours, donc je serai très heureux d'appartenir à une communauté des médecins pour le développement de notre pays. Merci aussi pour le commentaire par rapport à la malnutrition. C'est un problème criant de notre pays, mais les problèmes peuvent être adressés à différents niveaux et par différentes personnes. Nous ne sommes pas allés simplement aux États-Unis pour nous ouvrir les yeux, c'est pour renforcer nos capacités. Comme Mariam en a parlé tantôt, c'est parce que nous étions déjà acteurs dans nos communautés que nous avons été sélectionnés pour participer au programme. Donc il y avait déjà des programmes qui étaient implémentés à la base. Mais merci pour le commentaire. Monsieur Innocent a posé une question pour savoir concrètement on allait procéder pour offrir ces opportunités aux jeunes pour accéder à ces opportunités de bourse. Comme je l'ai dit tantôt, notre pays, c'est un pays francophone et la plupart des opportunités qui arrivent viennent des pays anglo-saxons. Qu'est-ce qui se passe en général, monsieur Innocent? Nous tous, nous avions connu cela. On est en 6e secondaire, on a le diplôme d'État, tout le monde est content, on a la poudre sur la tête et après, on court derrière les ambassades pour demander les bourses. On veut étudier aux États-Unis, on veut étudier en France, on veut étudier en Belgique et pour la plupart des pays anglo-saxons, on vous dit qu'il faut avoir le TOEFL, par exemple. Et là, on se dit, ah, le prof d'anglais, je ne l'aimais pas, l'anglais, je négligeais.
Ah, ça, c'est un problème, hein, beaucoup d'élèves.
Et du coup, beaucoup, plus de 90% des jeunes passent à côté de ces opportunités parce qu'ils
sont pas... À cause de la langue.
À cause de la langue. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont pas préparés à temps. Aujourd'hui, quand vous allez aller, il y a des opportunités qui viennent pour les États-Unis, on vous dit si vous êtes, vous devez avoir terminé avec 65, 75%, 75% en quatrième, en cinquième et en sixième, au minimum. Avec 75% et passer ces différences, mais, et c'est passer ces différents tests, le TOEFL, le SAT. Mais si l'élève qui est en troisième secondaire sait qu'il veut étudier aux États-Unis, sait qu'il veut étudier en Belgique, sait qu'il veut étudier en France, il connaît quels sont les critères qui sont requis pour avoir accès à ces opportunités. À partir de la troisième, il se prépare. S'il y a des gens qui peuvent l'encadrer, qui peuvent l'aider dans ses cours d'anglais, qui peuvent le préparer. Si vous préparez un test comme le TOEFL pendant 4 ans, pendant 3 ans, vous serez parmi les meilleurs parce que vous savez quelles sont les questions qui vous seront posées 3 ans après et les questions sont similaires. Mmh. Deuxième chose, on va travailler aussi pour les donner à donner accès à ces jeunes à des mentors pour le mentorship. Donc on les mettra en contact avec des personnes qui peuvent les aider à développer ou à se mettre en contact avec des outils et des programmes qui peuvent les aider à réaliser les rêves qu'ils ont par rapport à leur vie.
Mais ce programme Mandela Washington Fellowship est un programme annuel, c'est chaque année que les jeunes africains vont aux États-Unis.
Oui, c'est un programme annuel, oui, mais c'est un programme annuel aussi, non. Parce que c'est un programme annuel pour le déplacement vers les États-Unis, mais le programme continue. L'année prochaine, on aura à voyager pour aller dans d'autres pays africains par rapport à ce programme, toujours, et ça continue. On est suivi, on a des mentors, on a des coachs, on a beaucoup d'opportunités qui nous sont données. Donc le programme continue et c'est pas... Parce qu'on est parti, on est revenu que le programme s'est arrêté pour nous. Mmh. Non, le programme continue, ça va aller dans les années qui viennent aussi après.
Et Mariam, les autres, voilà, Innocent est intéressé, il voudrait également participer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la procédure à suivre?
La procédure, l'application est déjà en ligne. Les gens maintenant peuvent aller en ligne et même aller à Google et écrire Young African Leaders Initiative. Et on va vous, 2016. Et on va vous donner tous les processus. Mais si Innocent est intéressé aussi, on a sur Facebook une page de Mandela Washington Fellows, DRC. Il peut seulement écrire Mandela Washington Fellows sur Facebook. Il va trouver et entrer en contact avec l'un de nous-mêmes dans la boîte à messages. Et puis, on va discuter parce que nous sommes tous disposés à aider les personnes qui sont intéressées. Cette année, 500 jeunes sont partis, mais Obama a déclaré que l'année prochaine, il y a 1000.
Oui,
il a doublé le nombre pour dire qu'il y a vraiment l'opportunité est déjà là.
Donc mais les jeunes congolais peuvent s'organiser, nombreux, postuler et partir.
C'est ça l'avantage. S'ils veulent que nous soyons des coachs, on est là. Il y a une page à nous qui est sur Facebook. Et il y a des jeunes qui ont commencé à nous contacter dans les inbox. Comment ça s'est fait? Il y a des jeunes qui ont commencé à envoyer leurs brouillons, leurs drafts. Ils t'ont dit, tu peux lire pour moi, tu peux m'aider à corriger, juste pour les aider aussi à avoir cette opportunité. Et les filles sont vivement encouragées parce que cette année, nous sommes partis que 3 filles et 11 garçons. Ce qui n'a pas été vraiment une balance.
Oui, les genres n'étaient pas...
Non, les genres n'étaient pas équilibrés. Oui, c'était pas équilibré. Mmh. Ouais.
Et voilà. Cet après-midi, à 13h30, sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis, il y aura une session de questions et réponses. Ça sera en ligne. Ils pourront poser leurs questions sur la page et puis on pourra répondre. On sera là pour eux, pour travailler avec eux.
Mais c'est quoi le nom de la page? L'adresse?
C'est l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Si tu tapes l'ambassade des États-Unis à Kinshasa sur Facebook, c'est une page. Ils pourront participer et poser toutes les questions qu'ils voudront à la session de cet après-midi.
Alors, en tant que médecin, avec tout ce que vous avez appris, quels sont les projets que vous comptez initier pour votre communauté, surtout dans le domaine de la gestion publique?
Oui, merci beaucoup. Un des défis majeurs que nous avons dans notre système de santé, c'est la collecte des informations. Moi, je travaille dans le suivi et évaluation, donc on travaille dans les données. Et j'ai été émerveillé de voir qu'aux États-Unis, comment aux États-Unis, les données dictent les décisions. Comme on dit, data-driven decision. Les données conduisent les décisions. On ne travaille pas à l'aveugle, on n'implémente pas un projet à l'aveugle. Nous avons un problème de données. C'est vrai que les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Et je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut travailler, peut-être avec l'USAID, pour voir comment est-ce qu'on peut commencer à collecter les données de nos patients VIH en utilisant des des outils simples à manipuler par les prestataires de santé et des outils qui sont des données qui seront facilement collectées et analysées dans les ordinateurs. Parce que jusque maintenant, on travaille avec des papiers qu'il faut collecter avec des risques d'erreur. Le prestataire, s'il a des problèmes de vue ou quelque chose comme ça, la multiplicité des outils fait en sorte que les risques d'erreur aussi est grand et la charge du travail est importante. Mais si on peut avoir un petit outil qui permet de pouvoir collecter les données à la base et qui sera relié en réseau, on pourra avoir des meilleures données par rapport à notre pays et travailler vraiment à pouvoir aider, comme moi je le fais dans la Fondation Elisabeth Glaser, à éliminer le VIH pédiatrique dans notre pays.
Est-ce que vous avez eu le temps d'aller visiter aussi des hôpitaux où on prend en charge les personnes souffrant du VIH?
Oui, on a visité des hôpitaux. D'abord, à l'université, là, on était, il y avait un hôpital, Howard University Hospital. Et on a visité l'hôpital là-bas. On a visité d'autres hôpitaux aussi à travers la ville de Washington. Et c'est très, très bien organisé. C'est vraiment très bien organisé. Parfois, ça fait mal au cœur. Mais on croit que dans notre pays, on pourra arriver là. Les États-Unis ne sont pas construits en un seul jour. Ce n'est pas construit en un siècle. C'est le fruit du travail, de la volonté de chacun des citoyens américains qui a produit les résultats que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous croyons que notre pays est dans la bonne direction et qu'on pourra vraiment, si on se tient au respect des engagements que nous prenons, à la redevabilité, comme j'en ai dit, la transparence, l'intégrité dans tout ce que nous faisons, je pense que notre pays pourra continuer dans cette voie dans laquelle elle s'est engagée.
Bien, Rigen nous appelle de Walikale, au nord Kivu. Rigen, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à tous les invités.
On vous écoute, bonjour, Rigen.
Ok, moi, j'aimerais savoir seulement quelles sont les chances que nos deux invités peuvent donner aux gens qui n'ont pas fait l'université. Ça, c'est la première question.
Oui, la deuxième.
La deuxième question est, quels sont les critères et les avantages des jeunes garçons qui veulent participer, mais ils sont dans les milieux un peu reculés. C'est ça mes deux petites questions, monsieur. J'ai dit.
D'accord. Mariamou.
Oui, merci Rigen pour la question. La première question est de savoir les messages qu'on peut donner aux jeunes qui n'ont pas fait l'université. En fait, parmi les critères de Yali, il n'est pas mentionné qu'il faut avoir seulement un diplôme universitaire. Il y a des niveaux, il y a une section où on te montre le niveau d'études que tu as. Il y a high school, école secondaire, école primaire, université ou institut technique. Mais au moins, il faut avoir quand même des éléments de base de l'éducation. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas étudié, vous voulez aller faire Yali. Mais il faut aussi avoir aussi une connaissance approfondie. De base en anglais, parce que tout se passe en anglais. Faut pas être découragé parce que vous n'avez pas fait l'université pour ne pas postuler à Yali.
Même avec son diplôme d'État.
Même avec son diplôme d'État, mais si vous êtes actif dans la communauté, facilement, vous pouvez postuler. Oui.
Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous qui sommes dans les milieux reculés?
Oui, c'est, en tout cas, il faut pas que...
Je sais pas, reculer par rapport à quoi.
C'est la question que je voulais poser parce que on a des amis qui viennent de l'intérieur du pays, dans des zones où il y avait encore des petits groupes armés qui dérangeaient. Certains même ont passé des interviews pendant qu'il y avait des groupes armés qui dérangeaient tout autour là et tout, mais ils ont été sélectionnés et ils ont produit des très très bons résultats. Certains ont bénéficié de certains grants pour lancer leurs propres entreprises. Donc, ils viennent de ces milieux qui, lui, peut-être pense comme étant reculé. Je pense que le tout, c'est dans la tête. Il faut qu'il croit en lui. Le leadership, c'est la capacité d'influencer les personnes qui sont autour de vous, influencer la communauté. S'il a un impact dans sa communauté, dans la petite chose qu'il peut faire et qu'il a des bonnes bases en anglais, comme Mariam en a parlé tout à l'heure, il est éligible au programme. Et si ça ne marche pas cette année, qu'il essaie l'année prochaine. Moi, j'ai essayé la première année. Ça n'a pas marché, je ne suis pas découragé. J'ai essayé la deuxième année, ça a marché. Je suis là.
Voilà. Aziza nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Aziza, bonjour.
Oui, allô, bonjour. Vous m'entendez?
Oui, très bien. On vous écoute.
Oui, je viens de suivre l'exposé de nos invités. Alors, j'aimerais savoir, quand ils parlent d'être actifs dans la communauté, est-ce qu'ils veulent parler de l'expérience professionnelle? Donc, d'avoir travaillé quelque part, d'être utile à la communauté, ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris ce que signifie être actif dans la communauté. Est-ce qu'il parle de l'expérience professionnelle? Ça veut dire qu'il faut avoir combien d'années d'expérience professionnelle. Et aussi, ils nous ont parlé d'être aussi, d'avoir une parfaite connaissance. Donc, il faut tout se passe en anglais. Donc celui qui s'exprime un peu en anglais ne peut pas être éligible dans ce programme. Donc il faut encore faire des formations ou bien je ne sais pas. Et puis le programme prendra combien de temps là-bas aux États-Unis? On va être formé pendant combien d'années ou bien combien de temps? Voilà des préoccupations. Merci.
Bien, merci. Mariamou.
Oui, merci Aziza pour la question. Quand j'ai parlé d'être active dans la communauté, cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être engagé dans une ONG ou dans un cabinet, non. Et il faut pas avoir, je voulais pas dire par là qu'il faut avoir beaucoup d'années d'expérience dans une organisation quelconque. Être active, par là, je veux dire qu'il y a quelque chose que tu fais, même d'une manière volontaire, pour le bien de la communauté. Tu peux peut-être avoir peut-être une organisation à laquelle tu es affilié ou peut-être quelque chose que toi-même tu fais. Moi, je peux parler par exemple pour le civic leadership, là où il faut avoir quelque chose qui impacte la communauté. Par dans différents domaines, ça peut être dans l'éducation.
Quelqu'un m'a soufflé même balayer les routes.
Même il faut seulement montrer que
tu es les caniveaux.
Je t'ai dit tout cela a un
même sur la
même sur propre avenue.
Tout cela a un impact parce que on t'a dit de parler de ce que tu fais dans ta communauté, qui impacte parmi le questionnaire, qui impacte ta communauté. Qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? C'est pas travailler à UN, c'est pas travailler dans une
autre. Ça n'a rien à voir avec l'expérience professionnelle.
Avec l'expérience professionnelle.
Voilà. Et il faut parler, elle dit, si je parle un peu anglais, est-ce que je peux pas participer, en fait?
Par la connaissance de base dont Mariam a parlé, c'est être en mesure d'exprimer ses idées en anglais et de comprendre une personne qui parle en anglais. C'est la connaissance de base. Il est difficile de parler anglais comme une personne qui est née aux États-Unis, qui a habité aux États-Unis. Même pour nous qui avons été sélectionnés, la première semaine, pour moi particulièrement, c'était un peu... J'étais exposé à différents accents, des gens de New York, des gens de plusieurs villes. Mais après, on m'a accepté avec mon accent francophone. Les gens trouvaient que c'était très intéressant. Et ils ont aimé ça. Et je me suis affirmé avec mon accent francophone. Donc, être en mesure d'exprimer ses idées en anglais et de comprendre son interlocuteur, c'est ce que l'on demande simplement.
Et puis, il y a le temps. Vous avez passé combien de temps aux États-Unis, Mariamou?
Les programmes de formation durent normalement 6 semaines. 6 semaines de formation dans différentes universités. Et puis, il y a 3 jours de sommet à Washington où tous les fellows maintenant se retrouvent.
Avec le président Obama.
Avec le président, un jour avec le président et autre jour pour des discussions. Et puis, parmi le 500, il y a maintenant, cette année par exemple, et l'année passée, il y a maintenant 100 personnes qui sont sélectionnées maintenant pour rester. Pour faire maintenant le stage dans différentes organisations, on vous place aux États-Unis. Et ça fait partie, quand tu postules, dans le formulaire, il y a un endroit où on te demande, c'est pas obligatoire. On te demande si tu es intéressé par le stage, si tu es intéressé, tu cliques oui. Et puis, il y a une série de questions encore qui suivent, où on te pose différentes questions. Et après, si tu as la chance, tu es sélectionné pour rester encore 6 semaines de plus. Donc, 3 mois en général, si tu es resté pour le stage.
Bien, merci Orphée Tamba. Je rappelle que vous êtes médecin et vous avez participé au programme de gestion publique de YALI, Young African Leader Initiative. Nous disons également merci à Mariamou Aganze de Bukavu qui a participé au programme de civisme communautaire de YALI. Merci, bonne journée et à la prochaine.
Merci, bonne journée.
Merci.